Radio Barque 39e, on se retrouve pour notre deuxième partie. Alors, comme nous l'avions annoncé tout à l'heure, le sommaire prévoit maintenant que nous dissertions, Michel, sur le futur nom de la région, avec quelques nouveautés qui sortent dans l'actualité.
Alors, c'est quand même quelque chose de... Enfin, bon, donnons quelques chiffres. Hein. La région, enfin, la grande région, Languedoc, encore, hein, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. 5 700 000 habitants. D'accord ? Oui. 200 000 votants. Oui, 200 000 votants par voie électronique.
Ça fait pas baiser, bon. Enfin, bon.
Coût de l'opération pour la région, 500 000 euros.
Oui, alors ça fait cher par votant, déjà.
Par votant. Des votants qui devaient, en fait, qui devaient donner leur préférence pour chaque lot composant les 5 noms retenus par la région. On me suit ? 5 lots. Hein, oui. Alors, Occitanie, Languedoc-Pyrénées, en fait, Occitanie, Midi, je ne sais pas trop quoi, bon, 5. Alors, pour chacun des 5, les votants devaient donner un ordre de priorité pour chaque lot, d'accord ? Jeudi, les résultats sortent. Que titre la presse ? Faussement, évidemment. En tout cas, certaines presses. Plébiscite pour l'Occitanie. Plébiscite, 44,9% pour l'Occitanie. C'est-à-dire 90 000 votants.
Oui, puis plébiscite 44%, c'est quand même plébiscite. Beaucoup dire.
Alors que, c'est pas du tout ça le résultat. Le résultat, on ne le connaît pas encore. Ah. Pourquoi ? Parce que ce que oublient de nous dire, en fait, les journalistes bien informés, c'est que pour sortir le nom qui devrait être considéré comme, qui devrait être examiné par les élus, lors d'une prochaine réunion, il va falloir appliquer la méthode dite de Condorcet. Alors j'envoie mes auditeurs sur Wikipédia, aller voir un peu ce qu'est la méthode Condorcet.
La méthode de Condorcet.
Qui consiste à
consiste à prendre
chacun des lots, et dans chacun des lots, analyser, en fait, mathématiquement, quoi, hein, les ordres de préférence que chaque électeur, effectivement, a choisi. C'est-à-dire, bon, on prend par exemple le premier lot, quoi. Hein.
Il y en a, bon, j'espère que les auditeurs prennent des notes, là. Hein.
C'est totalement... Alors, c'est un calcul de probabilité extrêmement compliqué qui, à la sortie, donc on a un ordre de préférence. Un ordre de préférence. Donc c'est à partir de cet ordre de préférence-là, hein, listé 1, 3, 4, 5, hein, que les élus vont devoir, effectivement, réfléchir à ce qu'ils... considère devoir être retenu, enfin comme nom. Je signe au passage que le comité économique et social a déjà lui voté et choisi Languedoc-Pyrénées. Et alors même que cette décision que va prendre la région, elle, hein, ne sera pas, contrairement à ce que croient, en fait, ceux qui ont voté, ou ce que croient les lecteurs des journaux, ou ce que croient, bon, les gens qui ont entendu
enfin,
parler.
Ce que croient les croyants.
Les croyants, en fait, hein, oui. C'est pas la région qui aura le dernier mot. Hein. C'est le Conseil d'État, bon, qui va dire, voilà, je retiens ou pas, et que le gouvernement dira, OK.
Tout à fait.
Donc ça veut dire quoi, la sortie ? Que la probabilité que le nom d'Occitanie ne soit pas retenu est relativement importante, hein, en tout cas bien réelle. Et qu'à la sortie de tout ça, hein, ben forcément, on ne va créer que du mécontentement.
Ah oui, oui. On est bien parti pour.
Moi, le premier, d'ailleurs, on va en tête, parce que j'ai essayé de voter. Je n'y suis pas arrivé. J'ai attendu pendant 15 jours sur mon smartphone le code, en fait, SMS qu'on devait m'envoyer pour pouvoir voter électroniquement. J'ai fait 2 tentatives. Je n'y suis pas arrivé. Donc, j'ai laissé tomber. Je ne dois pas être le seul. Mais imaginons, par exemple, la tête des Occitanites qui se sont mobilisés, parce qu'évidemment...
Ah ben eux, ils auraient réussi à voter, leur ils ont été plus malins que toi avec Internet.
Non, mais surtout plus motivés. Pourquoi ? Parce que pour eux, il y avait un enjeu symbolique fort.
Oui, peut-être.
Hein, donc, ils se sont mobilisés comme des malades. Alors, j'avais titré avec un billet sur le sujet en disant, bon, l'Occitanie me casse les neurones. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment, je peux me tromper, là, encore une fois, donc, mais tant pis, je le dis de manière claire et nette, j'ai le sentiment que ce désir d'Occitanie, entre guillemets, par 90 000 en fait, hein, de votants, hein, reflète bien, en fait, ce qui se traverse dans notre pays, quoi, hein, de manière générale, à savoir une espèce de retour identitaire vers le passé, vers un pays occitaniste complètement fantasmé, où bon, tout se passait merveilleusement bien, en fait, hein, où on parle une langue magnifique, où l'économie se déployait merveilleusement bien.
C'est quoi, une terre de bisounours,
voilà, et je trouve ça, bon, dommage, enfin, plus que dommage d'ailleurs, à l'expliquer à un Suisse, à un Allemand, ce qu'est l'Occitanie. Bon, je veux bien.
Il faudra déjà l'expliquer au Conseil d'État.
Est-ce que vous pensez que c'est un. Parce qu'on est aussi, il faut le dire, dans une situation institutionnelle où le nom est affaire de marketing politique. Bon, marketing, c'est vrai que c'est pas trop occitaniste comme terme, c'est un peu anglo-saxon, mais ça veut bien dire. La région, elle doit se vendre, à l'extérieur. Là aussi, c'est peut-être un peu vulgaire de le dire comme cela, mais elle doit se vendre. Elle doit effectivement être attractive vis-à-vis des investisseurs. Aller dire, une entreprise de technologie de je ne sais où, que l'Occitanie l'accueille à bras ouverts. Bon, qu'est-ce que c'est l'Occitanie
Espérons quand même qu'on ne va pas retenir un nom trop long, parce que sinon ça fera comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, on va faire un sigle. Et alors là, c'est pas gagné non plus.
C'est vrai.
Encore plus technocratique.
C'est vrai, PACA, c'est pas très joli, à entendre.
PACA, oui.
Cela dit, on nous fait le procès, j'ai entendu, je l'ai lu, il faut absolument un seul nom, parce que deux noms, c'est pas bien. On peut pas dire, par exemple, francilien ou je sais pas trop quoi, ou Narbonnais, par exemple. Attendez.
Que dites-vous pour Hauts-de-France
déjà. Non, mais c'est pas ça. Non, mais attendez. Le Bade-Württemberg en Allemagne.
Le Bade-Württemberg, oui.
Bade-Württemberg, d'accord. C'est un État fédéral, c'est un État fédéré, Et c'est la première région européenne en termes de poids économique et en termes de poids
industriel. C'est là où il y a Mercedes, notamment, Stuttgart.
Alors, il faudra qu'on m'explique qu'un nom qui ne serait pas composé serait plus vendeur. Ça n'a pas de sens,
Voilà.
C'est stupide.
Bon. Enfin, de toute façon, il y aura encore des polémiques sur le terrain. Ça va bientôt nous remplacer le Racing, ça. La saga sempiternelle est jamais terminée.
On va avoir droit quand même.
L'actualité montpelliéraine, pour faire la transition, avec la présence d'Hélène Mandrou.
Oui, on va avoir certainement droit de réponse de nos occitanistes locaux.
Moi, j'aurais voté Languedoc-Pyrénées.
C'est ce que j'aurais voté moi aussi.
D'Hélène Mandrou.
Voilà. Pourquoi c'est ça associe les faits. Voilà. On prend les deux, Languedoc aussi, au Midi-Pyrénées. Bon, on fait un.
Alors, pour clore cette deuxième partie,
oui,
Michel, un regard.
J'avais la semaine dernière chroniqué sur les.
L'affaire Navarro.
Ah oui, les petits problèmes judiciaires du couple Navarro, qui, pendant longtemps, a tenu la fédération du Parti Socialiste. Il a tenu, pour le compte du commanditaire réel et du patron de cette fédération, à savoir Georges Frêche. C'était, il faut le dire, le chef de commerçon, les porte-flingues de Georges Frêche, et qui, d'ailleurs, ont bien réussi leur boulot, si je puis dire. Sauf que, ça va rappeler des souvenirs à Hélène Mandrou, sauf que, effectivement, tout a commencé à déraper quand Georges Frêche s'est fait exclure du Parti Socialiste, au régional, et que il est parti sur une liste dissidente, et il avait en face dans le département de l'Hérault, d'ailleurs, autant que je m'en souvienne, notre invité.
Oui, voilà, Hélène Mandrou.
Qui représentait le Parti Socialiste officiel. Ça a été, une bataille politique.
Tout à fait.
Vous confirmez.
J'en parle dans mon livre.
Ça a été une bataille politique très, 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 très viril, si je puis me permettre
l'expression. Excusez-moi, moi, je ne suis pas très viril, quand même.
Non,
excusez-moi, le qualificatif ne me convient pas complètement.
J'ai connu des femmes politiques qui avaient un caractère, marqué par une certaine virilité.
Oui.
Dans
le rugby, on dit viril mais correct, alors là, c'était apparemment ni viril ni très correct.
j'avais chroniqué, observé qu'en réalité, dans ce procès du club Navarro, même si effectivement la fédération de socialistes, le Parti Socialiste était à l'origine du procès, puisqu'on considérait qu'il y avait un détournement de fonds non négligeable. Le Parti Socialiste officiel qui à l'époque était contre Georges Frêche, quand même. Passons vite là-dessus. En réalité, le véritable responsable de cette situation-là était celui qui avait disparu, malheureusement, au plan physique, était Georges Frêche. Et qu'effectivement, on ne pouvait pas le juger, mais que c'était de fait, ce jugement-là, un détournement de responsabilité.
Oui.
Donc, alors, pour en revenir. Alors maintenant, je disais que c'était le début de la dégénérescence du Parti Socialiste sur le département de l'Hérault, qui s'est d'ailleurs traduit dans la foulée par la dissidence de Philippe Sorel et par l'éclatement, pour ne pas dire la disparition du paysage politique, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, du Parti Socialiste. Parce que non seulement Sorel a pris tous les pouvoirs sur à la mairie, à l'agglo, en fait, et à la métropole, hein, mais en plus, on assiste à une fuite des militants, en fait, et des encartés sur le PS, comme jamais ce parti n'a vécu jusqu'à aujourd'hui.
Oui,
alors... Et dernière en date, j'apprends, enfin, pas plus tard que cette semaine, en fait, ou la semaine dernière, je ne sais plus, qu'un Yvonne Le Dain, que je connais bien aussi, comme j'ai bien connu Hélène Mandroux, parce que quand j'étais aux affaires à la région, elle était en face, si je puis dire, comme déléguée régionale à la recherche au transfert de technologie. Oui. Donc, je l'avais pratiquement tous les jours dans mon bureau.
Bon, et aujourd'hui
bon, alors... Elle est députée. Sauf que les officiels, en fait, certains députés, officiels, quoi, hein, ne veulent pas entendre parler d'un Yvonne Le Dain pour repartir sur cette circonscription, en fait, législative.
Oui,
donc... Conclusion, qu'est-ce qu'elle a fait au niveau de l'animal là ? Eh bien, elle a fait une conférence de presse dans laquelle elle a expliqué qu'elle partirait, même si, bon, elle n'était pas investie par le PS, et elle partirait avec comme suppléant, il est toujours, hein, Philippe Sorel. Alors, j'imagine la tête, en fait, la tête aujourd'hui, hein, de certains hiérarques de la fédération, notamment le premier d'entre eux, en fait, Hussein Bourgi, apprenant effectivement que Philippe Sorel allait soutenir Yvonne Le Dain, hein, au projet législatif, alors que déjà dans le schéma, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour la remplacer. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on est dans une situation objective, hein, indépendamment des appréciations qu'on peut porter dans l'Hérault, où le PS est dans une crise, en fait, dont il n'est pas sorti et qu'à mon avis, il n'est pas prêt de sortir encore.
— Oui. Hélène Mandroux, vous qui êtes ou qui avez été au Parti socialiste...
— J'ai été même la secrétaire fédérale de Robert Navarro.
— Un mot
là-dessus. — Absolument. Et je le dis de façon très claire et très nette. —
Alors un mot là-dessus, votre sentiment.
Et en tout cas, je peux vous dire que quand j'étais secrétaire fédérale de Robert, vous l'avez dit, il y avait à peu près 5 000 militants. Aujourd'hui, il doit y en avoir moins de 2 000. Mais ce dont vous venez de parler, je veux dire, ce n'est pas un phénomène hérolté. C'est un phénomène, j'allais dire, national. Hein. Je pense que les partis politiques, dans leur ensemble, quels qu'ils soient, aujourd'hui, les partis politiques sont malades. Et dans mon livre, je dénonce justement, je dis que c'est un des effets pervers de l'élection du président de la République au suffrage universel et d'avoir transformé un septennat en quinquennat et d'avoir mis juste derrière les législatives. Donc j'appelle ça un phénomène d'écurie. C'est-à-dire dans tous les partis politiques aujourd'hui, au lieu que les militants soient motivés pour un projet de société, un projet de vie, se mettent en rang de bataille derrière... celui-là ou derrière celle-là.
Voilà, ils font du suivisme.
Et je pense que c'est ce que j'appelle donc ce phénomène d'écurie est très mauvais pour cette société qui évolue très mal, parce que une fois la bataille terminée, il reste toujours des petits relents. Et ceux qui ont soutenu celui-là ou celle-là, même après on leur dit, ben c'est celui-là qui a gagné ou celle-là qui a gagné. Il reste des marges qui ne sont négatives et ça ne peut pas avancer.
Et une atmosphère malsaine.
Et l'atmosphère est malsaine.
On revient sur votre livre.
Voilà. Donc les partis politiques sont malades.
On revient sur
votre
livre.
Surtout sur ça, effectivement, les primaires.
Voilà. On revient sur votre livre dans une...
Est-ce qu'allons-nous avoir des primaires ? Enfin, à droite, tu sais. On le sait. À gauche, on ne sait toujours pas. Moi, je ne me suis pas présenté aux primaires.
Voilà, on marque une pause et on se retrouve pour l'interview complète d'Hélène Mandroux.